Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre balade musicale. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin. On est ensemble, comme tous les dimanches, jusqu'à midi. Après Théodora, un chef-d'œuvre du dernier Handel, magnifiquement servi par une distribution superlative, nous découvrirons le Kremlin by Night de Nikolaï Miaskovski, avant de tomber sous le charme de la musique de chambre de Reynaldo Hahn. Et pour débuter notre émission, le pianiste Jean-Baptiste Doulcet va, au gré de ses improvisations, prolonger en musique son regard sur les films qui ont marqué sa passion de cinéphile.
Balade musicale sur IDFM Radio.
Nous sommes en duplex avec le pianiste Jean-Baptiste Doulcet, qui vient de sortir son troisième album sous le label Mirare, A Film Bae, dans lequel le pianiste recrée, par des improvisations, son propre musée imaginaire du cinéma. Bonjour Jean-Baptiste Doulcet.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans notre balade musicale sur IDFM Radio. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été formé au CNSM de Paris, en piano et en musique de chambre, dans la classe de Claire Désert et de Thierry Esquèche en improvisation. Vous avez remporté en 2019 le 4e prix et le prix du public du concours Marguerite Long, présidé par Martha Argerich. Ainsi d'ailleurs que le prix Modern Times du concours Clara Askill, présidé par un autre très grand pianiste, Christian Zacharias. Et vous êtes également lauréat du 8e concours nordique de piano. Vous êtes invité dans les plus fameux festivals, la Rock d'Anteron, la Folle Journée, l'Histomania, Piano en Valois, Piano aux Jacobins, Nohant Festival Chopin, et aussi sur de nombreuses scènes internationales, en Europe, aux USA et en Chine. Partenaire très recherché en musique de chambre, vous partagez la scène avec des artistes comme Augustin Dumay, Marc Coppet, Le Quatuor Hermès, Raphaël Sévère et beaucoup d'autres. Vous êtes soliste invité par l'Orchestre de Paris, dirigé par le jeune génie Klaus Mäkelä. Et comme compositeur, vous avez écrit une vingtaine d'œuvres pour instruments solistes, musique de chambre et musique d'ensemble, créées entre autres par Raphaël Pidou et Alina Abragimova. Après deux albums sortis chez Mirare qui ont été encensés par la critique, le premier consacré au romantisme germanique et d'Europe centrale, avec Liszt et Schumann, le second à la musique des compositeurs scandinaves et finlandais, Grieg, Sibelius et Nielsen. Et voici cette année un film Bae, dans lequel vous nous offrez 22 improvisations, non pas sur des musiques de films, mais sur les films eux-mêmes, ce qui est un challenge très original. Et cela me conduit à ma première question. Pourquoi improviser sur des films qui ont déjà une bande originale, Jean-Baptiste Doulcet ?
Eh bien, en réalité, alors déjà, ils n'ont pas tous une bande originale. Certains ne contiennent pas de musique, ou alors certains, comme le bonheur, font appel à la musique préexistante, et en l'occurrence du Mozart. Mais en effet, l'idée, c'était de repenser, enfin pas de repenser les propositions musicales de ces films, mais en fait, de, à travers l'improvisation, de leur rendre hommage, de rendre hommage aux films, plus qu'aux musiques de ces films, en prenant des évocations, des souvenirs, des émotions que m'ont procuré ces films. Donc en fait, c'est plus une sorte de remise en scène de ces films à travers mon souvenir de cinéphile.
Comment avez-vous choisi ces 22 improvisations parmi tous les films qui existent et qui sont évidemment considérables, hein ? Un catalogue extraordinaire. Alors,
Ça a été un petit peu à la fois très excitant et presque un peu douloureux parce qu'il y a beaucoup de films et beaucoup de cinéastes qui ne sont pas cités dans le disque et que j'aurais énormément aimé rajouter parce que je les adore. Donc en fait ça a été plutôt un travail fait à l'envers parce qu'en réalité lors de l'enregistrement j'avais en tête certains cinéastes, certains films sur lesquels je voulais improviser et puis très vite au début des sessions d'enregistrement je me suis rendu compte que j'étais prisonnier de vouloir faire de la musique en lien avec les images. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai abandonné pendant l'enregistrement les films en eux-mêmes pour improviser beaucoup de choses, explorer, faire aussi des choses que je n'avais pas l'habitude de faire pour avoir une multitude, un maximum de matière. Et ensuite, quand j'ai reçu tous les fichiers sons et que j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'on gardait, etc., là, je me suis dit, je cherchais des films que je pourrais je pouvais mettre dessus. Donc en fait, finalement, les films sont venus après coup selon ce que la musique pouvait tisser comme lien avec telle atmosphère ou tel rythme dans tel film ou telle évocation, tel paysage, etc.
J'ai choisi un premier extrait, Opal Rush, inspiré du film Uncut Gems de Josh et Benny Safdie. C'est un thriller autour d'une opale de grande valeur et comme tous les thrillers, ça va mal se terminer, Jean-Baptiste Doulcet.
Oui, alors en fait, il faut pas trop en dire, parce que c'est un film très étonnant, c'est un thriller sans être vraiment un thriller non plus, d'ailleurs, c'est un film qui est une sorte de course folle dans New York. C'est un film qui est traversé d'une énergie, d'un rythme frénétique, plutôt dans le sens de la mise en scène du chaos, de quelque chose qui échappe à la destinée de ce personnage qui est campé par Adam Sandler. Et c'est un film qui m'a fait une impression vraiment, vraiment extraordinaire, parce que je trouve qu'il est rare de voir un film où la question de la vitesse, c'est pas juste pour parce que le monde va vite qu'il faut filmer vite, mais ça se relie à ce trajet, à cette trajectoire de ce personnage qui est prêt à tout, et on est embarqué dans un comme dans une espèce de, oui c'est ça, de ligne droite complètement folle, et c'est un film tout à fait étonnant.
Eh bien, on va s'embarquer avec votre improvisation, Jean-Baptiste Doulcet. Après Opal Rush, Jean-Baptiste Doulcet, changeons l'atmosphère et partons pour l'Union soviétique avec un très beau film, Quand passent les cigognes, de Mikhaïl Kalatozov, qui a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1957. Que vous inspire ce film, Jean-Baptiste ?
C'est un film que j'ai découvert assez jeune, peut-être dans les premiers de ce qu'on pourrait appeler ce courant du cinéma soviétique et expressionniste, je sais pas si c'est le mot, enfin en tout cas dans les termes de la mise en scène qui est la suite un petit peu de cette invention formelle qui a été avant Kalatozov le fruit de cinéastes comme Eisenstein, et c'est un film qui est extrêmement lyrique, c'est un film qui parle de la guerre, ou plutôt à côté de ce qui se passe à côté de la guerre quand on attend un soldat qui ne revient pas, quand on voilà, c'est un film qui parle de tous ces affects là avec une mise en scène extrêmement extravertie de cette manière. Alors c'est un style qui peut déplaire parce qu'il y a une dimension ouvertement esthétique et non pas esthétisante, je crois, et il y a ce visage, cette actrice absolument sublime d'expressivité qui est filmée magnifiquement, et il y a ce, pour moi tout, voilà, ce drame qui est montré juste par les effets de la mise en scène. Et je crois que c'était Isabelle Huppert d'ailleurs qui disait, je sais plus si elle disait que c'était une des plus belles, que la scène finale était l'une des plus belles de l'histoire du cinéma, et que j'avais vu une interview d'elle où elle disait que elle ne savait pas, enfin elle a été convaincue en voyant ce film qu'on pouvait, une actrice pouvait à la fois pleurer et sourire dans le même plan. Et c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté-là à la fin qui est magnifique.
Eh bien, écoutons votre improvisation sur le film « Quand passent les cigognes », Jean-Baptiste Doulcet. C'était une improvisation par notre invité, le pianiste et compositeur Jean-Baptiste Doulcet, sur le film « Quand passent les cigognes », extrait de son nouvel album « A Film By », sorti sous le label Mirare. Comment se sont déroulées les séances d'enregistrement, Jean-Baptiste ? Avez-vous joué totalement le jeu de la musique improvisée ?
Alors oui, absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, d'ailleurs, même si c'était difficile, mais j'ai voulu qu'il n'y ait aucun montage musical. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de coupe, on n'a pas fait de montage. Donc c'est-à-dire aussi que toutes les petites imperfections qui peuvent exister, j'ai décidé de les laisser. C'est-à-dire de jouer le jeu entièrement, de la spontanéité. Puis aussi c'est une manière d'être sûr de garder tout le geste musical. Un peu comme quand on filme une séquence, on filme un plan, on recoupe pas dans le plan, on laisse vivre ça, et c'est ce qui parfois crée, alors quand on l'étend, un plan séquence. Donc ce sont un peu des plans séquences musicaux que j'ai voulu assembler.
Donc avec une prise de risque et donc loin du confort habituel des enregistrements studio.
Absolument. Mais après, c'est un autre confort, c'est-à-dire que c'est un jeu d'exploration, on est libre puisqu'on n'a pas de... comment dire, on n'a pas de feuille de route, donc on n'est pas contraint de se dire ah il me reste encore 3 heures et là il faut encore que je refasse ces mesures là. Non, on est libre, donc c'est aussi une, c'est à la fois contrainte et liberté en même temps.
Autre univers, celui du cinéaste Gus Van Sant avec Paranoid Park, Jean-Baptiste Doulcet.
Oui, c'est un film tout à fait unique, je crois. Alors, Gus Van Sant est un cinéaste assez unique déjà parce que il est un cinéaste américain qui est entre deux eaux, c'est-à-dire à la fois le cinéma indépendant, qui est peut-être ce pour quoi il est le plus connu en réalité dans la cinéphilie, c'est-à-dire Elephant, qui a gagné la Palme d'Or en 2003, Paranoid Park, Jerry, et à côté de ça, comme si il le faisait peut-être pour financer ses films indépendants, il fait des films de studio avec des grandes stars, alors des films plus ou moins beaux, mais en général très réussis quand même, mais des films beaucoup plus classiques, comme Harvey Milk avec Sean Penn, récemment... il a fait aussi, je crois, un film qui s'appelle, enfin, il y a assez longtemps avec Nicole Kidman. Et ce sont, pour moi, c'est assez étonnant, un cinéaste qui, comme ça, arrive à faire feu de tout bois et être à la fois dans le système et dans son propre univers. Et Paranoid Park, c'est un film sur, c'est pas un film sur le skateboard, ni sur, ça prend ce décor à Portland, mais, c'est l'histoire, c'est un film urbain et c'est un film sur la culpabilité et sur le regard adolescent, sur l'expression et surtout le mutisme des adolescents. Et en l'occurrence, au milieu d'un accident qui va avoir lieu dans le film, et comment ce jeune homme perçoit le monde autour de lui et la façon dont cette culpabilité va le ronger. Encore une fois, c'est un film très formel et qui va, par les moyens de la mise en scène, essayer d'exprimer des choses qui sont de l'ordre du non-dit.
Eh bien, on va vous écouter, Jean-Baptiste Doulcet, dans un morceau que vous avez baptisé « Vertige de l'apesanteur ». Après l'univers de Gus Van Sant, voici maintenant le cinéma de David Lynch avec Inland Empire. Jean-Baptiste Doulcet.
Alors Inland Empire, c'est un film, j'aurais pu prendre un film peut-être plus populaire de Lynch, c'est vrai, je reconnais que j'ai été un tout petit peu plus radical. J'aurais pu prendre Elephant Man, un de ses grands films, évidemment, un grand chef-d'œuvre, mais aussi Mulholland Drive, qui est beaucoup plus célèbre ou célébré. Inland Empire, en réalité, c'est son dernier long métrage, parce qu'ensuite, il a arrêté de faire du cinéma, il a repris Twin Peaks, et puis il a fait de la peinture, de la musique, etc. Il a fait beaucoup de choses, même des bulletins météo maison. Mais son dernier film en date, son dernier long, c'est Inland Empire, et c'est une sorte de variation un peu autour de Mulholland Drive, du moins, à nouveau, en tout cas, sur la question de l'actrice, sur la question du mythe, sur la question d'Hollywood comme machine à fantasmes, et sur, quelque part, le martyr de la femme actrice, et comment elle est exploitée, et ce que le cinéma en fait. Voilà, donc c'est la fabrique des images, et c'est tout ce qui va en... tout ce qui est dégurgité par le cinéma, et en l'occurrence Hollywood, dans une sorte de film cauchemardesque où les strates de réalité se superposent, s'entrechoquent, jusqu'au moment où ça crée justement un vertige. Alors là, j'aurais pu l'appeler vertige aussi à nouveau, mais un vertige littéralement entre la fiction et la réalité. Et c'est un film qui est, à mon sens, peut-être dans la filmographie de Lynch, en pleine possession de tous ses moyens, c'est-à-dire que c'est filmé avec une petite caméra numérique, donc il fait ça un peu, c'est presque comme un film maison, et en même temps on a l'impression que le moindre plan sur un visage, c'est reconnaissable d'entre tous. Il y a vraiment une affirmation totale de son langage qui est un peu le point culminant de la liberté d'un artiste. Il a trouvé sa voix, sa patte, absolument. C'est un film fascinant.
Eh bien, écoutons comment vous abordez l'univers de David Lynch, Jean-Baptiste Doulcet. C'était la musique de notre invité, le pianiste Jean-Baptiste Doulcet, qui nous plongeait avec délices dans l'atmosphère du cinéma de David Lynch. Avez-vous des dates de concerts et de festivals pour cet été ?
Oui, bien sûr, j'en ai beaucoup. Là, je vais partir samedi donc à Lavaux Classique en Suisse pour un récital entre improvisation et répertoire. Ensuite, l'académie que je dirige et que j'ai créée avec ma femme Émilie Katzen, qui est au Danemark, ça, ce sont des masterclass pour les pianistes et les instruments à cordes. Ça s'appelle French Connection Academy. Donc là, on est professeur, organisateur, il y a des concerts, il y aura la radio qui vient, etc. Et on partage la scène avec nos chers professeurs, dont cette année Augustin Dumay, Björk Levis, Alexandre Kantorov, etc. Ensuite, la Roue d'Anteron, le 23 juillet, qu'on des concerts mi-juillet aussi en Corse, au festival Opus Corsica, et puis le Danemark, encore la Suisse, l'Espagne, la Suède, la France, voilà, pas mal de dates qui s'entrechoquent, que vous pourrez trouver évidemment sur mon site web.
Donc, un été très chargé et certainement passionnant pour vous et pour les auditeurs,
oui,
qui auront la chance de
absolument
vous entendre.
Enfin, pour moi, en tout cas, j'espère pour les auditeurs. En tout cas, c'est mon travail de m'assurer que ce soit passionnant pour eux.
Bien sûr. Avant de se quitter, on va écouter un dernier extrait de votre album que j'ai choisi, Un rêve étrange, qui vous a été inspiré par un film de Manuel de Oliveira.
Donc, Manuel de Oliveira, oui, alors c'est un cinéaste dont je n'ai pas vu tous les films, d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, et pour cause, il en a réalisé énormément. Et notamment parce que c'est un cinéaste qui est mort à l'âge de 106 ans, c'est quand même assez, je crois que c'est un record du monde parmi nos chers cinéastes, un cinéaste portugais, et qui est mort, je pense, il y a 5 ans, à peu près 6 ans, faudrait que je revérifie, et donc qui a réalisé énormément de films, naturellement, dont celui-ci, qu'il a dû tourner à l'âge de 95 ans, ou des choses comme ça, et qui est un film sur le cinéma, sur le pouvoir de ce que l'on peut capter, comment le cinéma, comme un acte enchanteur, peut donner vie, peut redonner vie aux morts. Donc c'est un film sur la croyance aussi du cinéma, ou du moins dans son acceptation première à l'époque des premières photographies, où on pensait que on pouvait capturer l'âme des gens. Alors c'est un film qui parle de ça, de l'objectif. Et de cette utopie de redonner vie aux gens et à l'amour. Donc c'est un photographe, c'est l'histoire d'un photographe de funérailles qui va venir un soir, il est appelé à prendre la photo d'une très belle jeune fille qui est morte, et durant la veillée funéraire, donc dans son cercueil, il prend la photo de cette femme et puis il se rend compte que, en fait, la femme ouvre les yeux et lui sourit sur cette photo quand il retravaille le cliché chez lui. Et à partir de là, il va être évidemment fasciné, tomber amoureux de cette figure et il va essayer de la rechercher. Et c'est un film qui côtoie Chagall, qui côtoie les débuts du cinéma, l'utilisation de la musique de Chopin d'ailleurs, qui est splendide dans une version de Mariage aux Pires de la sonate en si mineur. Il y a tout un assemblage de références culturelles, de l'histoire de l'art, en fait, qui rendent ce film tout à fait passionnant. Très, très beau film d'un cinéaste presque centenaire. Que je conseille fortement.
Eh bien, écoutons votre improvisation, Jean-Baptiste Doulcet, sur ce film qui baigne dans une atmosphère d'envoûtement et de mélancolie. Thank you. C'était une improvisation inspirée d'un film de Manuel de Oliveira, du pianiste et compositeur Jean-Baptiste Doulcet, qui était notre invité en balade musicale sur IDFM Radio pour son nouvel album sorti chez Mirare. Merci beaucoup Jean-Baptiste Doulcet.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée et très bon concert.
Merci à vous aussi. Bon été.
Merci.
Balade musicale sur IDFM Radio.
L'oratorio Théodora est un chef-d'œuvre des dernières années de la vie de George Frédéric Handel. Leonardo Garcia Alarcón nous en offre une version en tout point remarquable avec un plateau de solistes d'exception. Dans l'ouverture, les attaques franches et l'effervescence du Millennium Orchestra sont en adéquation avec le théâtre tragique de l'oratorio. Après l'ouverture de Théodora, écoutons l'un des chœurs de la première partie qui met en valeur le magnifique chœur de chambre de Namur.
Thank you.
Handel sur IDFM Radio. L'orchestre Millennium et le chœur de chambre de Namur, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón, étaient les brillants interprètes de l'un des chœurs de l'oratorio Theodora, qui paraît sous le label Richard Carr. Créé le 16 mars 1750 au Covent Garden Theatre, l'oratorio Theodora a surpris les Londoniens. Fini les épisodes grandioses de l'Ancien Testament, les luttes glorieuses de Salomon et de Judas Maccabée, la jeune martyre Théodora n'est chef d'aucune communauté et ne mène pas de troupes au combat. Loin des oratorios à grand spectacle, c'est un récit poignant d'un drame personnel au début de la chrétienté que nous convie Handel. La soprano Sophie Juncker est l'interprète exceptionnelle, à la fois frémissante et inflexible, de Théodora qui refuse de renier sa foi. C'était une aria de la deuxième partie de l'oratorio Theodora de Handel. La soprano franco-belge Sophie Juncker était accompagnée par le Millennium Orchestra sous la baguette de Leonardo Garcia Alarcón. Velouté du timbre et tenu de la ligne, caractérise le chant de la mezzo-soprano estonienne Dara Savinova, qui incarne le personnage d'Irène, la confidente de Théodora.
Thank you.
C'était une aria de l'oratorio Theodora de Händel par la mezzo-soprano Daria Savinova avec le Millennium Orchestra dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Extrait d'un triple album sorti sous le label Richard Carr qui se place en tête de la discographie.
Balade musicale sur IDFM Radio.
Les œuvres de Nikolaï Miaskovski, l'un des grands compositeurs du XXe siècle, demeurent encore largement méconnues. Le Ural Youth Symphony Orchestra et Alexander Rudin poursuivent pour le label Fuga Libera leur projet de redécouverte de ces chefs-d'œuvre oubliés. Le poème symphonique Alastor, la symphonie numéro 7 et la cantate The Kremlin by Night qui exprime l'amour du compositeur pour sa patrie et sa riche histoire.
Thank you.
nous écoutions les deux derniers mouvements de la cantate The Kremlin by Night du compositeur russe Nikolaï Myaskovski, la soprano Albina Chaïkieva, les chœurs du philharmonique de Yekaterinbourg et l'orchestre symphonique des jeunes de l'Oural étaient tous placés sous la direction d'Alexander Roudin, un compositeur à redécouvrir avec ce très beau disque paru chez Fuga Libera.
Balade musicale sur IDFM Radio.
6 ans après un premier disque applaudi par la critique, le second volume de l'intégrale de la musique de chambre de Reynaldo Hahn vient éclairer de nouveaux aspects de l'œuvre d'un maître dont on redécouvre le style singulier et profondément raffiné. La fratrie Tchalik nous livre 5 premières au disque, dont un trio inachevé pour violon, violoncelle et piano, composé en 1895, contemporain de la brève relation du musicien avec Marcel Proust. Avec Reynaldo Hahn, nous venons de refermer notre balade musicale sur IDFM Radio. C'était le trio inachevé pour violon, violoncelle et piano par Louise, Dania et Marc Tchalik. Deuxième volume, plein de séduction, de l'intégrale de la musique de chambre sortie sous le label Alkonost Classique. Quant à moi, Christophe Gravreau, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 11h pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique et jusque-là, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.